parole du jour avec le Père Willem.
L'amour jusqu'au bout. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 53 et suivants. À partir de maintenant, il y a un changement radical pour les disciples. Jésus n'est plus avec eux. Ils entrent dans une période de sevrage. Jusqu'à présent, il était leur guide. Maintenant, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Apprentissage de leur responsabilité de disciples. Le sevrage est progressif, puisque dans un premier temps, même s'ils ne peuvent lui parler, Jésus est encore là. Certains le suivent des yeux, de plus ou moins loin, et peuvent peut-être encore espérer, contre toute attente, qu'il reviendra. À partir de sa mort, le sevrage est total. Le Christ se retire pour les aider à passer de l'extérieur, ils mettent toute leur confiance en leur maître, à l'intérieur, c'est-à-dire découvrir en eux la présence de Dieu. Jésus ouvre le chemin. Il ne parle presque plus. Tout est dans ses actes. Pour centrer notre réflexion sur l'essentiel et pour entrer dans la compréhension de la dynamique de ce passage, nous citons Laurien Medzimana, un théologien rwandais. Il nous introduit à ce qu'il appelle l'homme de bonne puissance. Celui que nous allons contempler en Jésus tout au long de sa passion. Faire de la théologie, c'est scruter le devenir de l'alliance singulière de Dieu avec nous. Or, ce devenir, c'est la venue de l'homme à son maturité, quand il commence à vivre et à porter pour de bon ses fruits de jubilation devant Dieu et devant les hommes. J'appelle cette maturité bonne puissance. Face à l'empire, avoir et pouvoir, et à l'idée, savoir et valoir, l'homme de bonne puissance paraît désarmé. Il n'est qu'une apparence. En réalité, ce n'est pas lui que redoute l'empire et l'idée. C'est exactement l'inverse. Les hommes galonnés et titrés ne craignent rien tant que cet homme-là, car il est comme un miroir où ils peuvent admirer leur propre vanité. C'est insupportable. Aussi, l'homme de bonne puissance se veut-il généralement massacré par l'empire et l'idée réunie, mais sans rancune, car il sait qu'il sait qu'il est massacré par l'aveuglement des uns et la lâcheté des autres. Tous de grands enfants qui jouent à l'adulte et ne savent pas ce qu'ils font, mais où puissent-ils cette assurance souveraine, stabilité qui le fait finalement demeurer égal à lui-même? Où prend-il cette force qui le fait s'avancer main nue au milieu des pauvres? D'où enfin lui vient cet amour qui lui fait subir toute injustice sans la retourner aggravée à l'expéditeur? C'est tout cela que nous allons découvrir. Assister à une parodie de procès où le meurtrier est relâché et l'innocent, au sens premier, c'est-à-dire celui qui ne nuit pas, est traité comme un meurtrier. On verra d'une part les différents acteurs qui soutiennent la violence, les oppresseurs, l'environnement et même les amis, les proches. D'autre part, les différents types de violence à l'œuvre, contre violence, fuite, passivité. Marc nous plante d'abord le décor et les acteurs. Ils l'emmènent chez le grand prêtre. Ils se réunissent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, à distance, le suit jusqu'à l'intérieur, dans la cour du grand prêtre. Il est assis avec les gardes et il est près de la flambée. Cette réunion au sommet se tient en pleine nuit. Ce n'est donc pas un interrogatoire légal. Pourtant, ils sont tous là, nous dit Marc, les grands prêtres, les anciens et les scribes, c'est-à-dire les membres du Sanhédrin qui représentent le jugement du peuple. Ils font bloc pour être plus forts afin d'affronter Jésus. Pierre aussi est là. Malgré le danger, il a suivi Jésus. Il ose même se montrer à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il est assis avec les serviteurs qui étaient prêts à trucider pour défendre son maître il y a quelques heures. Et pourtant, il suit le procès de Jésus sans pouvoir intervenir dans l'impuissance la plus totale. Et cette fois-ci, sans s'endormir. Comme il est en quelque sorte tout nu, il a froid et il se réchauffe près du feu. Le mot utilisé pour désigner le feu est littéralement la lumière. Qu'est-ce ce feu ? Qui est cette lumière capable de réchauffer Pierre au creux de sa vulnérabilité ? Ne serait-ce pas Jésus lui-même ? N'est-ce pas pour cela que Pierre a pris le risque de venir jusque-là ? D'ailleurs, Marc n'écrit-il pas, Pierre le suit. C'est bien Jésus et lui seul qu'il suit. À distance, il est vrai. Mais il est là, alors que les autres se sont dispersés. Marc met en scène Pierre comme témoin du procès de Jésus, comme pour mieux signifier que c'est lui qui raconte. C'est sa vision des événements. Les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient contre Jésus un témoignage pour le laisser mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup témoignaient à faux contre lui, et les témoignages n'étaient pas concordants. Lui se taisait, et pas de réponse dans Marc 14, 55. Dès le début, c'est clair, les oppresseurs forment un seul bloc et cherchent à faire mourir Jésus, à tout prix, à n'importe quel prix. Pourtant, le Sanhédrin est une assemblée de 71 personnes qui habituellement expriment différentes tendances. Ici, Marc nous les présente comme unanimes. Ce tout entier sonne faux. On a l'impression que quelque chose cloche. Il s'ingénie à trouver des témoignages, n'en trouvant pas, en commande, comme pour nous faire croire qu'il respecte les règles juridiques, alors que clairement, ce procès n'en est pas un. Une accusation plus précise au sujet du sanctuaire est épinglée. Le sanctuaire est le temple. La partie réservée au grand prêtre, c'est le lieu le plus sacré, le saint des saints. Et le Christ ne s'est jamais attribué le rôle de destructeur du temple. Il en a juste annoncé la destruction. Même si ce témoignage est faux, tel que proposé, il est intéressant de noter le contraste que Marc souligne entre un sanctuaire fait de main d'homme, et celui non construit par les hommes. Relu à la lumière de la résurrection, on y découvre Jésus, nouveau temple. Son humanité devient le lieu de la présence et de la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Ce n'est pas pourtant sur un faux témoignage que Jésus sera condamné, mais sur la question essentielle à laquelle Marc nous mène progressivement. Alors, le grand prêtre se lève au milieu. Il interroge Jésus en disant « Tu ne réponds pas à rien ? Qu'est-ce qu'il témoigne à charge contre toi ?» Mais lui se taisait. Il ne répond pas. L'entrée en matière du grand prêtre, ou plutôt les mots que Marc choisit pour nous le décrire, sont significatifs. Le grand prêtre se lève au milieu, les mêmes mots utilisés quand Jésus guérissait et chassait les démons. Debout, au milieu, la place centrale, celle où Jésus réintégrerait ceux qui étaient exclus à la marge, comme si le grand prêtre voulait en reprendre possession. C'est sa place, c'est lui et les siens qui règnent à cette place, qui décident et qui peut y être ou pas. Celui qui peut y être, ce qui n'a pas de place. Pour lui, il s'agit bien d'un conflit de pouvoir.